CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette diffusion d'informations juridiques dans le cadre d'un projet de collaboration entre le Réseau national d'étudiants et étudiantes Pro Bono et la radio CFAQ. Le but de ce projet est de faciliter l'accès à l'information juridique dans la communauté grâce à la radiodiffusion de plusieurs capsules. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques pour des situations spécifiques, mais plutôt d'informations générales qui s'adressent à tout le monde. Alors n'hésitez surtout pas à communiquer avec un avocat ou une avocate en cas de besoin.
Bonjour et bienvenue à cette capsule. Mon nom est Sarah et je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Claudia. Bonjour Claudia.
Bonjour Sarah.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'autorité parentale qui sera présenté en deux parties. Alors Claudia, peux-tu nous définir un peu ce que c'est l'autorité parentale?
Oui, bien sûr Sarah. Tout d'abord, là, ça serait vraiment de mise de décrire ce concept qu'on peut retrouver dans le Code civil du Québec. C'est vraiment à l'article 598 qu'on va retrouver la vraie description de l'autorité parentale comme étant le contrôle légal qu'ont les parents sur leurs enfants dont la filiation, ça a été établie jusqu'à leur majorité, donc jusqu'à 18 ans. Donc, l'enfant, en échange, il doit respecter à ses parents en vertu de l'article 587. Puis, le devoir de respect, c'est vraiment à vie, là, c'est pas jusqu'à ses 18 ans. Puis, c'est ça, ça se termine pas à la majorité, là, puis c'est un respect qui est vraiment viagé. Puis, malgré ce concept, il faut encore et toujours tenir en compte le principe de l'intérêt de l'enfant, toujours au centre des décisions, Sarah. Puis cet intérêt, comme mentionné, c'est codifié à l'article 33 du Code civil du Québec. Puis, en gros aussi, pour continuer, sur le site d'Éducaloi, où on peut trouver plusieurs informations juridiques, on peut comprendre un peu plus ce qui inclut l'autorité parentale, parce que, veux, veux pas, c'est un concept qui est assez large, Sarah. Puis on peut voir que les parents, ils prennent vraiment des décisions avec ce pouvoir-là en ce qui touche à la garde de leur enfant, la surveillance aussi de l'enfant, la sécurité, protection psychologique et physique, éducation et bien sûr tout ce qui entoure vraiment ces concepts-là. Puis, on peut donc conclure que tout ce qui touche le bien-être de l'enfant, Sarah, ça rentre dans les droits et les obligations de l'autorité parentale. Puis, dans certaines situations, une délégation et même une perte d'autorité parentale, ça peut même devenir possible, Sarah.
Et Claudia, pourrais-tu nous dire qui possède l'autorité parentale?
Oui, en fait, au départ, l'autorité parentale, elle appartient bien évidemment aux deux parents qui doivent nécessairement prendre les décisions de concert. Évidemment, les cas de séparation, ça peut amener certains enjeux concernant la prise de décision commune des parents parce que, veux, veux pas, s'ils sont un peu en chicane, ça peut être difficile à ce niveau-là. Puis, il existe aussi une présomption que lorsqu'un parent, il prend une décision pour l'enfant, ça va un peu de soi que son conjoint ira dans le même sens, dans le sens qu'on ne va pas toujours confirmer chaque décision pour les deux conjoints. Et donc, on va vraiment avoir cette présomption-là que si un conjoint prend une décision, mais l'autre, ça va aller de soi. Et puis cette présomption-là, Sarah, on peut la retrouver à l'article 603 du Code civil du Québec. Puis en fait, là, avant 1977, c'était vraiment seulement le père qui détenait l'autorité parentale pendant le mariage, à moins de séparation et ou de divorce, etc. Donc, quand même, un gros changement qu'on a pu voir apparaître après 1977, Sarah. Puis là, après ça, évidemment, là, depuis, c'est vraiment les deux parents qui ont l'autorité parentale en vertu de l'article 600 du Code civil. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les titulaires de l'autorité parentale, ça peut aussi être parfois un tuteur. Toutefois, si l'un d'eux décède ou est déchu de l'autorité parentale ou n'est juste plus en mesure de manifester sa volonté, l'autorité, elle va être exercée par l'autre parent en vertu de l'article 600 alinéa 2. Puis aussi, une nuance qui est quand même importante, là, en cas de séparation, si jamais un enfant se retrouve avec un beau parent, que ce soit belle-mère ou beau-père, en fait, cette personne-là n'exercera pas l'autorité parentale sur l'enfant à moins qu'elle se la fasse déléguer. Puis, c'est quand même important aussi de distinguer c'est quoi la notion de tuteur et d'autorité parentale parce que ça peut arriver dans certaines situations, Sarah, où ceux qui détiennent la tutelle ne sont pas nécessairement ceux qui détiennent l'autorité parentale. Puis ça peut être le cas où un enfant qui est par exemple dans une famille d'accueil, puis la famille d'accueil doit donc demander dans certaines circonstances la permission pour faire certaines choses et pour avoir les droits de l'autorité parentale aux véritables parents, même s'ils ont la tutelle, Sarah.
Maintenant, Claudia, concrètement, quel droit amène la charge de l'autorité parentale?
Oui, Sarah, un des droits les plus importants qu'amène l'autorité parentale, ça serait vraiment celui du droit de garde. Et quand on donne aux parents la garde, donc le droit à la présence de l'enfant, et ça facilite beaucoup son entretien, son éducation, sa surveillance. Puis l'enfant a l'obligation de vivre avec ses parents jusqu'à sa majorité en vertu de l'article 602. Puis, à moins qu'il soit émancipé, là, donc le mineur non émancipé ne peut pas, sans le consentement de son titulaire à l'autorité parentale, quitter son domicile, en fait. Donc, c'est vraiment en cas d'émancipation avant la majorité qui va pouvoir le faire, mais sinon ça prend vraiment l'accord de son parent. Puis la garde, ça va aussi déterminer la résidence de l'enfant, puis ça confère donc vraiment une grande responsabilité puis un grand droit aux parents. Puis également, Sarah, il y a aussi le droit de surveillance qui permet aux parents d'avoir un mot à dire vraiment sur les habitudes de l'enfant et ce qu'ils jugent approprié ou non. Là. Donc vraiment, le droit de décider ce qui est comme correct ou non, ça va vraiment aller à la discrétion de ceux qui ont l'autorité parentale. Puis, c'est aussi une manière de laisser aux parents la latitude de prendre les décisions en fonction vraiment de la bonne sécurité de l'enfant, Sarah.
Et Claudia, qu'en est-il des droits d'entretien et d'éducation?
Oui, c'est certain aussi que le droit d'entretien, Sarah, c'est vraiment primordial. Et en fait, là, il s'agit de s'assurer que l'enfant, il va vraiment posséder tout ce qu'il lui faut pour être justement correct. Donc, on parle ici de, bien évidemment, de nourriture, vêtements, prodiguer des soins quand c'est nécessaire. Donc, en bref, là, c'est tout ce qui est vraiment la base là, qu'un enfant devrait recevoir. Puis, on considère donc que c'est vraiment un peu l'aspect matériel de la garde de l'enfant. Puis, c'est vraiment important aussi, Sarah, de savoir que ça, c'est vraiment un devoir qui est d'ordre public. Donc, on ne peut pas décider d'y déroger si ça nous tente. Là, c'est comme vraiment obligatoire de le respecter. Puis, on retrouve plusieurs similitudes entre le devoir d'entretien et l'obligation alimentaire codifiée à l'article 585 du Code civil. Mais il faut savoir que le devoir d'entretien, contrairement à l'obligation alimentaire, là, c'est seulement la charge des parents. Là, et ça ne va pas être réciproque. Puis, pour ce qui est du devoir d'éducation, ça, en fait, Sarah, ça va donner la latitude du parent de choisir ce qu'il veut pour son enfant. Encore une fois, et toujours dans son intérêt. Puis on considère que dans tout ce qui touche l'éducation, tout ce qui va rentrer là-dedans, en fait, là, ça va être la langue, la religion, puis tout ce qui est comme un peu entourant l'éducation, Sarah.
Et enfin, Claudia, jusqu'à quand l'autorité parentale s'applique-t-elle?
En fait, Sarah, ça va s'exercer jusqu'à la majorité de l'enfant, donc jusqu'à ses 18 ans. Comme mentionné un peu précédemment, là, il y a toujours l'exception de l'émancipation en vertu de l'article 171 du Code civil du Québec, que l'enfant là, il n'aura plus l'autorité parentale. Que ce soit la simple émancipation ou la pleine, c'est pas important, ça va amener la même modification. Du moment que l'enfant atteint la majorité, le devoir d'entretien se transforme en obligation alimentaire, puis cette dernière résulte du lien de parenté et non là, de l'autorité parentale. Donc, vraiment deux choses qui vont être distinctes ici. Puis également, en vertu de l'article 602, comme on a dit tout à l'heure, là, le mineur non émancipé, il peut pas, sans le consentement, quitter son domicile. Donc, c'est sûr que là, on a parlé de tout ça, mais en pratique, ça peut devenir un peu plus complexe.
Merci beaucoup, Claudia, pour toutes ces informations qui mettent fin à notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec, plus particulièrement sur l'autorité parentale.
Ça me fait plaisir.
Nous remercions une fois de plus la radio CEFAC dans ce projet de collaboration avec le Réseau national étudiant pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui complétera l'autorité parentale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule d'information juridique dans le cadre d'un projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants pro bono et la radio CEFAC. Je me présente Vincent Bellil et je suis accompagné de ma collègue Annelise Descaillettes. Bonjour Annelise.
Bonjour Vincent.
Tout d'abord, comme mentionné par notre collègue Claudia dans la première partie de la capsule portant sur l'autorité parentale, nous savons que l'autorité parentale peut être soit déléguée ou perdue, notamment là avec la déchéance parentale. Annelise, peux-tu nous dire en quoi consiste la délégation de l'autorité parentale?
Absolument. Pour commencer, il est possible de confier l'exercice de la garde à quelqu'un d'autre, mais les parents conservent le droit d'entretenir et de nourrir l'enfant. Également, la délégation ne peut être que pour une période déterminée seulement. Ainsi, on ne peut pas déléguer l'autorité parentale jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité.
Ah bon? Y a-t-il une raison en particulier pour ça?
En fait, les tribunaux ne veulent pas cautionner des parents qui vont se déresponsabiliser de leurs obligations. C'est-à-dire que si l'on permettait cela, on reviendrait en fait à contourner toutes les dispositions d'ordre public en matière d'adoption.
Et justement, Annelise, peux-tu nous dire un peu c'est quoi une disposition d'ordre public?
En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une règle de droit qu'on est obligé de respecter qui est imposée par le législateur.
D'accord, donc si je comprends bien, les parents demeurent tout de même responsables de leurs enfants, malgré que l'autorité parentale soit confiée à autrui.
Effectivement, que ce soit la garde, la surveillance ou l'éducation qui sont confiées, les parents vont continuer d'assurer leurs droits et leurs devoirs que leur confie l'autorité parentale. D'ailleurs, cela inclut également les dommages causés par leur enfant en matière de responsabilité civile.
Sinon, Annelise, est-ce qu'il existe une manière de déléguer l'autorité parentale, outre que volontairement?
Effectivement, la délégation peut provenir d'une décision judiciaire. Par exemple, il pourrait y avoir une personne à qui on confie la garde des enfants, qu'on appelle un tiers gardien, dont le juge accorde certains attributs de l'autorité parentale. Encore une fois, le parent conserve l'autorité parentale, et ce, même si la garde est confié à un tiers. Le parent a le droit de participer aux décisions concernant son enfant, à moins que le tribunal, pour une raison quelconque, lui enlève. Par exemple, il est possible pour les grands-parents de saisir le tribunal afin d'exercer certains attributs de l'autorité parentale si la mère arrête de collaborer quant à son rôle de parent.
Annelise, qu'en est-il lorsqu'on est dans un cas de séparation? L'autorité parentale revient à qui dans ce cas-ci?
D'abord, dans un contexte de rupture, même si un parent a la garde, l'autre parent conserve quand même son autorité parentale. Puis, les décisions quotidiennes sont prises par le parent gardien, mais les autres décisions doivent être prises conjointement. Par décision quotidienne, on parle par exemple de ce que l'enfant va manger pour dîner, de la façon dont il va se vêtir pour aller à l'école, alors que le fait de changer l'enfant d'établissement scolaire, ce n'est pas inclus dans les décisions quotidiennes. De plus, on peut démembrer l'autorité parentale lorsque c'est dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal peut l'ordonner ou les parents peuvent seulement s'entendre entre eux.
Et qu'advient-il avec le couple séparé dont l'un prend une décision quant à leur enfant et que l'autre n'est pas d'accord?
Dans une telle situation, malgré le démembrement de l'autorité parentale, ils conservent tous les deux un droit de surveillance. C'est-à-dire, si l'un conteste la décision de l'autre parent, il peut aller devant le tribunal pour régler le tout.
C'est intéressant. Donc, en cas de conflit, le tribunal est la solution privilégiée, là, si j'ai bien compris.
En fait, lorsqu'il y a des différends concernant l'application de l'autorité parentale, les avocats ont l'obligation d'envoyer toutes les parties à une séance de coparentalité et de médiation. Les parents sont ainsi obligés d'assister à une séance de 2 heures. L'objectif derrière cela est d'expliquer aux parents qu'il est mieux de s'entendre que de faire une audition contestée.
Ah, donc c'est super d'avoir un recours alternatif là, autre que la cour.
Exactement.
Autrement, est-ce que c'est exact d'affirmer que le fait de confier la garde à un tiers n'équivaut pas à la déchéance parentale?
Tout à fait. Justement, c'est ce qui m'amène à vous expliquer en quoi consiste cette notion. La déchéance de l'autorité parentale a comme effet de faire perdre aux parents tous ses droits envers l'enfant. Mais par contre, il ne perd pas ses obligations. Par exemple, le parent qualifié de déchu n'aura pas son mot à dire quant à l'entretien de son enfant. Cependant, une pension alimentaire peut lui être demandée pour son enfant puisque cela est considéré comme étant une obligation.
Ensuite, Annelise, là, brièvement, la pension alimentaire, ce serait une obligation réciproque entre l'enfant et son parent. Donc, est-ce que l'enfant pourrait devoir verser une pension alimentaire à son parent dans un tel contexte là, de déchéance de l'autorité parentale? Est-ce que cette obligation persisterait?
En fait, en vertu de l'article 609 du Code civil du Québec, pour l'enfant, lorsque le tribunal prononce la déchéance de l'autorité parentale, l'enfant en fait est dispensé de son obligation alimentaire envers son parent automatiquement, à moins que la cour ne l'autorise pas. Puis cette dispense peut être levée après la majorité de l'enfant s'il y a des circonstances qui le justifient.
Ah, je vois, mais sur quel motif le juge se base-t-il là, afin de déterminer qu'un parent est déchu de l'autorité parentale?
La Cour va habituellement prononcer la déchéance de l'autorité parentale en se basant principalement sur 2 motifs. D'abord, il doit y avoir un motif grave. À titre d'exemple, c'est lorsque le parent a abusé sexuellement de son enfant, s'il est l'auteur du meurtre de l'autre parent, s'il est violent à l'égard de son enfant ou même s'il abandonne son enfant. D'ailleurs, pour qu'un enfant soit considéré comme étant abandonné, il doit l'avoir été pendant une période d'au moins 4 à 5 ans, selon une jurisprudence rendue en 2013.
Dans un contexte d'abandon, si un enfant a un parent incarcéré en prison pour une peine justement de plus de 4-5 ans, il serait déclaré déchu?
Non, pas tout à fait. Le fait d'être incarcéré n'équivaut pas à un abandon. Par exemple, si le parent incarcéré fait tout pour conserver, pour garder en fait le contact avec son enfant et démontre son intérêt envers celui-ci, il pourrait ne pas être déchu.
OK, donc ce n'est pas automatique. Qu'en est-il du deuxième motif?
Pour que la déchéance de l'autorité parentale soit prononcée contre le parent concerné, il est nécessaire de faire la preuve que cela est dans l'intérêt de l'enfant. Comme mentionné par notre collègue Claudia lors de la première capsule portant sur l'autorité parentale, lorsque vient le temps de prendre des décisions concernant l'enfant, la notion de son intérêt est au cœur de celle-ci, telle qu'inscrite à l'article 33 du Code civil du Québec.
Annelise, peux-tu nous faire part des effets de la déchéance de l'autorité parentale?
Certainement. D'abord, entre autres, ça ne rompt pas le lien de filiation. En d'autres mots, le lien de parenté qui unit l'enfant à son parent déchu existera quand même. Ensuite, il est possible pour l'enfant de faire une demande de changement de nom lorsque son parent est déchu. Ainsi, l'enfant ne portera plus le nom de famille de son parent. Toutefois, malgré le changement de nom, le nom du père, par exemple, va quand même rester sur l'acte de naissance de l'enfant. Aussi, en principe, selon l'article 108 du Code civil du Québec, la déchéance s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Également, lorsqu'on est déchu, on court le risque que notre enfant soit adopté par une autre personne. C'est-à-dire que la jurisprudence en cas d'adoption nous oblige de donner la possibilité aux parents déchus d'être réintégrés dans son autorité parentale en lui portant à sa connaissance la demande de placement. Donc, c'est le fait de prévenir le parent qu'il se pourrait en fait que son enfant se fasse adopter. Mais si le parent déchu suite à cette information n'en fait rien, eh bien, son enfant pourra être adopté. De plus, il a noté qu'on ne peut pas demander sa propre déchéance, donc s'auto-déchoir.
Donc, si j'ai bien compris, lorsqu'on perd l'autorité parentale, c'est toujours possible de la récupérer?
En fait, il y a certaines nuances à apporter, c'est-à-dire que lorsqu'il est question de révision ou de la restitution de l'autorité parentale quant aux parents déchus, il doit y avoir des modifications positives dans sa situation d'effet nouveau. Comme par exemple, si le parent prend conscience que sa conduite ne faisait pas de sens, se reprend en main, en fait, ces changements doivent être significatifs. Dans ce cas, cela peut faire en sorte que le parent soit réintégré dans l'autorité parentale. Donc, il pourra récupérer tous ses droits. Ainsi, il sera possible de faire une demande en restitution ou révision de l'autorité parentale tant que l'enfant, en fait, ne sera pas adopté par autrui. Également, un petit rappel que malgré la déchéance, le lien de parenté entre l'enfant et le parent existe quand même, mais en cas d'adoption, ce lien de filiation n'existera plus et une telle demande ne sera donc pas possible.
Donc, excellent. Annelise, avais-tu autre chose à ajouter?
Oui, rapidement. Selon l'article 611 du Code civil du Québec, les grands-parents ont le droit d'avoir des contacts, en fait, avec leurs petits-enfants. Pour interdire le contact entre eux, on doit avoir un motif grave. Puis, selon la jurisprudence, les grands-parents qui sont empêchés de voir leurs petits-enfants peuvent faire une demande de droit d'accès, mais ceux-ci doivent déjà avoir un lien créé avec l'enfant en question et ça doit être dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, il ne sera pas possible pour les grands-parents qui n'ont jamais vu, par exemple, leurs petits-enfants de faire une telle demande.
Merci beaucoup, Annelise, pour toutes ces informations qui clôt la capsule d'information sur l'autorité parentale, la deuxième partie.
Ça m'a fait plaisir.
Nous remercions une fois de plus la radio CEFAC dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule d'information juridique sur le droit de la famille.
Bonjour et bienvenue à cette capsule. Mon nom est Sarah et je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Claudia. Bonjour Claudia.
Bonjour Sarah.
Donc, Claudia, il existe plusieurs manières d'établir la filiation entre des parents et un enfant. Ensemble, nous allons aborder le concept de la filiation par le sang. Est-ce que tu pourrais d'abord me dire ce que c'est une filiation?
Oui, Sarah, il faut savoir que la filiation, ça sert vraiment à établir un lien juridique patrimonial et extra-patrimonial entre les parents et l'enfant. Il y a donc trois manières d'amener ce lien, dont par le sang. Les deux autres manières, on va pouvoir les voir dans d'autres capsules. Donc maintenant, concentrons-nous sur la filiation par le sang. Puis en fait, la filiation, ça va amener plusieurs obligations, qu'importe la manière qu'elle est amenée. Donc les parents ont donc la tutelle de l'enfant en vertu de l'article 192 du Code civil et ils ont aussi l'autorité parentale, concept que nous avons abordé dans deux capsules précédentes. Il y a aussi l'obligation alimentaire qui est justement réciproque entre les parents et l'enfant et la transmission du nom de famille et de certains droits successoraux. Et par contre, là, ça ne veut pas affecter par contre les conjoints de fait pour l'obligation alimentaire. Ça va vraiment être plus les couples qui vont être mariés ou unis civilement. Puis il faut aussi savoir que qu'importe la filiation dont les enfants sont issus, ils vont tous avoir les mêmes droits et obligations. Ce qu'il faut savoir, Sarah, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, avant 1970, on considérait vraiment les enfants hors mariage différemment.
Et maintenant, Claudia, plus précisément sur la filiation par le sang, de quelle manière est-il possible de faire reconnaître ce lien?
Donc, il y a vraiment plusieurs manières, puis on veut passer un peu à travers tout ça ensemble. Et premièrement, il y a des manières qui sont non judiciaires de reconnaître la filiation. Et puis, dépendamment des moyens non judiciaires, ça peut avoir des impacts différents parce que ils vont être un petit peu hiérarchisés. Ils vont pas tous avoir la même force. Donc, premièrement, puis ça, c'est vraiment la manière qui est vraiment la plus forte de prouver la filiation. Puis c'est l'acte de naissance qu'on retrouve à l'article 523 du Code civil du Québec. Puis l'acte de naissance, c'est vraiment une preuve authentique de la filiation et c'est vraiment la manière la plus facile de le prouver. Donc ça, Sarah, ça va être la première manière. Ensuite, on retrouve la possession d'état constante. Donc si l'acte de naissance n'est pas mentionné, la possession d'état constante, ça peut suffire. Ceci, en fait, là, c'est le fait d'agir et surtout d'avoir l'intention d'agir en étant le parent de l'enfant. Puis il faut savoir que ça se fait pendant une période de temps. On peut pas juste le faire pendant 2-3 jours puis avoir la possession d'état constante. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, la jurisprudence a montré que ça prend environ une période de 16 à 24 mois pour avoir vraiment la possession d'état constante qui va être justifiée. Et puis ensuite, ça comprend vraiment plusieurs éléments qui vont être constitutifs. Donc, il y a tout d'abord le nom du père. Quoique maintenant, en 2021, c'est moins important parce que nécessairement, c'est possible qu'un enfant n'ait pas le même nom de famille que son père ou quoi que ce soit. Ça peut être celui de sa mère ou si c'est un couple homosexuel, c'est possible également. Il y a aussi le traitement du parent non reconnu envers l'enfant. Donc, le parent qui n'est pas encore reconnu doit vraiment traiter l'enfant comme si c'était le sien avec l'intention de le faire. La renommée. Donc, c'est super important que les personnes entourant la personne qui n'est pas encore considéré comme le parent, faut qu'ils reconnaissent le rapport entre le parent et l'enfant. Ça doit pas être fait de façon cachée. Puis aussi la constance dans le temps, donc avec le délai de 16 à 24 mois. Puis, il est aussi primordial qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à la possession d'état constante. Par exemple, si deux parents non déclarés agissent pour obtenir ce titre-là, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que ce soit un parent qui va être non déclaré. Puis, autre point vraiment majeur, cette possession, elle doit aussi débuter dès la naissance et non après, Sarah.
Et Claudia, y a-t-il d'autres manières d'établir les liens de filiation?
Oui, en fait. Donc là, on a fait comme les deux plus importants, mais si on descend, en fait, il y a d'autres manières de l'établir, mais ces moyens-là vont avoir moins de force de loi. Donc, on a ensuite la présomption de paternité. En fait, ça, c'est une présomption pour les époux ou les personnes unies civilement. Encore une fois, on exclut les conjoints de fait. Puis la présomption de paternité, ça va simplement s'appliquer aux hommes. Puis on retrouve cette présomption à l'article 525 du Code civil du Québec. Puis en fait, il faut que les enfants soient nés pendant le mariage ou l'union ou encore dans les 300 jours qui vont suivre la dissolution ou son annulation. Sinon, la présomption, elle ne pourra pas être applicable. Puis si, par exemple, la femme se remarie dans les 300 jours, ça va être en fait la nouvelle personne, le nouveau mari qui va avoir la présomption. Et également, il y a aussi la reconnaissance volontaire. Ça, c'est vraiment difficilement prouvable. C'est vraiment juste de se reconnaître. Ça va créer des obligations, mais pas de droits. Donc, ça serait vraiment la manière la moins forte pour prouver la filiation avec l'enfant.
Et Claudia, nous avons abordé des façons extrajudiciaires d'établir cela, mais est-il possible d'établir une filiation par le sang d'une autre manière?
Oui, en fait. Donc, premièrement, c'est important aussi de regarder qu'il y a une présomption vraiment irréfragable dans le sens que c'est pas possible de la contester, qui lie la filiation lorsque les noms des parents sont sur l'acte de naissance et qu'il y a possession d'état constante. Donc, si ces facteurs sont respectés, ça va être vraiment impossible de contester la filiation. Par contre, il peut quand même être possible de contester une filiation qui est déjà établie. Et pour le père, ça va se jouer vraiment dans l'année de la naissance de l'enfant ou encore dans l'année suivant la connaissance de la naissance de l'enfant qu'il va pouvoir contester justement la présomption. Puis la contestation d'état permet d'écarter ce qui a possiblement déjà été établi soit par possession ou par présomption de paternité. Puis ce recours, Sarah, ça va se prescrire par 30 ans.
Et Claudia, aurais-tu un exemple provenant de la jurisprudence pour illustrer un verrou de filiation?
Oui, donc si on regarde la jurisprudence droit de la famille 20572, donc dans l'espèce, on a pu constater justement un père qui était biologique, mais en fait, le verrou de filiation était déjà mis entre la personne qui se retrouvait sur l'acte de naissance, puis avec la mère. Donc même si la personne était le père biologique, compte tenu que l'autre personne qui était sur l'acte de naissance et qui avait la possession d'état conforme exerçait ça depuis les délais requis, même si le père était vraiment le père biologique, ça ne fonctionnait pas compte tenu qu'il y avait le verrou de filiation, Sarah.
Claudia, nous venons d'aborder la contestation d'État, mais existe-t-il d'autres moyens judiciaires?
Oui, donc il y a aussi la réclamation d'État, puis dans ce cas-ci, c'est vraiment pour ajouter un nom sur l'acte de naissance quand il y en a juste un. Puis parfois, on peut voir des situations où on veut d'abord contester l'État pour ensuite faire une réclamation pour mettre le bon nom sur l'acte de naissance, Sarah.
Puis, enfin, Claudia, dans nos précédentes capsules, nous avions parlé de l'intérêt de l'enfant à plusieurs reprises. Qu'en est-il dans la filiation par le sang?
Quand on fait mention de la filiation par le sang, on ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment pas un facteur en jeu, puis ça va être vraiment une des seules fois que ce concept-là va pas être au cœur de vraiment des décisions. Puis en fait, on met ce qui est véridique. Puis l'un des seuls moments en droit familial, c'est ça où l'intérêt de l'enfant, c'est vraiment pas le centre des décisions, Sarah.
Merci beaucoup, Claudia, pour toutes ces informations. On se retrouve pour une prochaine capsule pro bono portant sur le droit de la famille.
Bonjour, mon nom est Claudia et je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Sarah pour une nouvelle capsule d'informations juridiques sur le droit de la famille. Bonjour, Sarah.
Allô, Claudia.
Oui, pour poursuivre le thème de la filiation, aujourd'hui, nous allons aborder la filiation adoptive avec toi, Sarah. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du processus d'adoption au Québec?
Oui, bien sûr. Donc, avant de commencer, j'aimerais préciser que cette capsule traite uniquement de l'adoption au Québec et non de l'adoption à l'international, ce qui peut être un peu mêlant parfois. Donc, sommairement, l'adoption contient trois phases, dont je m'y attarderai plus tard dans la capsule. En gros, la première phase est l'étape du consentement, la deuxième est l'ordonnance de placement, et la dernière est la demande en adoption elle-même. Une fois que le processus est terminé, le principal effet de l'adoption, c'est qu'il y a une rupture des liens de filiation avec les parents d'origine et une nouvelle filiation avec les parents adoptifs est créée. Durant ce processus, le critère le plus important est l'intérêt de l'enfant. Donc, tout peut tomber à l'eau si on s'aperçoit que la démarche n'est plus dans l'intérêt de l'enfant. Il peut même avoir un avocat à l'enfant, puis le mandat de cet avocat, c'est vraiment de veiller uniquement à l'intérêt de l'enfant en question. Les adoptions doivent passer par un processus judiciaire, donc elles se font à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, et dans la majorité des cas, le processus d'adoption au Québec se fait en collaboration avec le directeur de la protection de la jeunesse, soit la TPJ.
Donc Sarah, on voit quand même que ça peut être un peu compliqué le processus d'adoption. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ça serait quoi les conditions pour adopter un enfant?
Pour adopter un enfant, il faut que la personne désireuse d'adopter soit majeure. Par contre, un mineur peut consentir à donner son enfant à l'adoption, advenant le cas d'un parent âgé de moins de 18 ans, par exemple. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'avant 1982, seuls les couples mariés pouvaient adopter. Donc, la règle était vraiment plus stricte et forcément, les célibataires et les conjoints de filles ne pouvaient pas adopter un enfant. Aujourd'hui, la seule règle concernant les conjoints de filles, c'est qu'ils doivent demeurer ensemble au moins 3 ans avant d'adopter. Aussi, depuis 2002, il est permis aux couples homosexuels d'adopter et cette année coïncide avec la légalité du mariage homosexuel, donc une année marquante pour ceux-ci. D'ailleurs, pour pouvoir adopter un enfant, il faut que les intéressés subissent une évaluation psychosociale qui est faite par la TPJ et qui vise à déterminer si les futurs parents ont la capacité d'accueil d'un enfant et surtout la capacité de lui fournir un milieu d'appartenance qui va répondre aux besoins de l'enfant.
Donc, si je comprends bien, là, le processus d'adoption a beaucoup évolué et également, là, il existerait plusieurs banques d'adoption, c'est bien ça?
Absolument. À vrai dire, il en existe deux, soit la banque régulière et la banque mixte. La banque régulière regroupe les enfants orphelins de très bas âge ou ceux qui sont laissés à l'adoption à la naissance, alors que la banque mixte regroupe les enfants qui ont été retirés de leurs parents par le directeur de la jeunesse et par le directeur de la protection de la jeunesse, pardon. Puis parmi les banques mixtes, certaines familles d'accueil ont la garde des enfants à long terme et sont désireuses d'adopter l'enfant confié.
Donc Sarah, si nous revenons un peu à la première étape du processus, tu nous as dit que c'était l'étape du consentement. Est-ce que c'est bien ça?
Exactement. Donc si l'enfant est mineur, il faut d'abord que ses deux parents biologiques figurant sur l'acte de naissance, donc le père et la mère, consentent. L'enfant doit également consentir, mais selon son âge. Le consentement de l'enfant est requis lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 14 ans. Donc, si celui-ci refuse, le tribunal tient compte de son refus, mais il pourrait passer outre son consentement et prononcer l'adoption si c'est dans son intérêt, ou bien le tribunal pourrait différer le jugement à un moment ultérieur. Mais lorsqu'un enfant est âgé de plus de 14 ans et refuse, son refus fait obstacle à l'adoption. Et il est important de savoir que le consentement, il se fait par écrit devant deux témoins, il faut s'assurer que le consentement est bel et bien libre et éclairé. Donc, dès que le consentement par écrit est obtenu, l'enfant s'en va chez l'adoptant. Et il est bon de savoir qu'une personne majeure peut également se faire adopter par la personne qui remplissait le rôle de parent lorsqu'elle était mineure. Aussi, l'étape du consentement se subdivise en trois catégories, soit le consentement général, le consentement spécial et la déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Puis Sarah, ça serait quoi en fait la différence entre les trois types de consentement?
Eh bien, lorsque les parents donnent un consentement général à l'adoption, ils consentent à ce que leur enfant soit adopté par quiconque. Donc, les parents n'ont aucun mot à dire sur qui va adopter leur enfant. Lorsque les parents donnent un consentement spécial, c'est en faveur d'un membre de la famille. La loi prévoit un ascendant de l'enfant en ligne directe ou en ligne collatérale du troisième degré ou bien le conjoint. Cela inclut donc les grands-parents ou un oncle ou une tante de l'enfant. Les conjoints de fait qui habitent depuis au moins 3 ans avec leur conjoint avant l'adoption peuvent également adopter l'enfant de leur conjoint ou de leur conjointe. Dans le cas d'un mariage civil, le délai de 3 ans n'est pas nécessaire. Finalement, la déclaration d'admissibilité à l'adoption, aussi appelée DAA, est une procédure de rechange au consentement. Elle survient lors d'une incapacité à obtenir le consentement, mais qu'il est dans l'intérêt de l'enfant à changer sa filiation. Donc, pour s'y faire, la situation de l'enfant doit correspondre à l'une des suivantes. Donc, si l'enfant est âgé de plus de 3 mois et aucun de ses parents n'est déclaré, ou bien si ni le père, ni la mère, ni son tuteur ne lui donnent des soins ou l'éducation requis depuis 6 mois, ou bien si le père et la mère sont déchus et l'enfant n'a pas de tuteur, ou encore si l'enfant est orphelin et n'a pas de tuteur. Donc, si un cas d'ouverture se trouve, il faut en plus qu'il soit improbable que le parent reprenne la garde et assume les soins requis. Et dans le cas d'une DAA, il n'y a pas de délai, c'est plutôt un jugement qui prononce l'adoption.
Et Sarah, est-ce que c'est possible de retirer son consentement?
Oui, en effet, donc, il est possible de rétracter son consentement dans les 30 jours après la signature. Donc, si la rétractation se fait après le délai, ce n'est pas fatidique, mais elle doit absolument se faire avant l'ordonnance de placement, sinon il est trop tard. Si les deux parents ont consenti, mais que l'un d'eux change d'idée, tout le processus tombe à l'eau. Et tout comme le consentement, la rétractation se fait par écrit devant deux témoins. Et bien qu'il y ait un délai maximum pour changer d'idée pour les parents, étant donné que l'intérêt de l'enfant prime toujours, l'enfant, quant à lui, peut refuser à n'importe quelle phase.
Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la deuxième phase du processus d'adoption, Sarah?
Oui, bien sûr. Donc, l'ordonnance de placement est prononcée par le tribunal et à partir de cette ordonnance, un délai de 6 mois court afin d'évaluer si l'enfant s'adapte bien à son nouveau milieu. Et le délai de 6 mois peut être réduit à un délai de 3 mois si l'enfant qui vivait déjà avec l'adoptant. Et à ce stade, le tribunal s'assure que les conditions sont bien remplies, notamment au niveau du consentement des parents et de l'enfant. À partir de cette ordonnance, les parents d'origine ne peuvent plus reprendre leur enfant. Toutefois, l'effet de cette ordonnance cesse si l'enfant n'est pas bien dans sa famille ou qu'il n'est pas dans son intérêt qu'il demeure à cet endroit.
Et enfin, Sarah, en quoi consiste l'étape finale?
La demande en adoption, constitue l'étape finale. Elle peut se prononcer après le délai de 3 ou 6 mois, selon le cas, entre l'ordonnance de placement et la demande en adoption. C'est à ce stade-ci qu'une nouvelle filiation est créée.
Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations qui mettent fin à notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec et plus particulièrement sur l'adoption au Québec.
Ça me fait plaisir.
Nous remercions une fois de plus la Radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le Réseau national étudiant pro bono et nous invitons à nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui complétera l'affiliation.
Bonjour à tous, mon nom est Annelise Descaillettes et je suis aujourd'hui en compagnie de mon collègue Vincent Bellil pour une nouvelle capsule d'informations juridiques sur le droit de la famille. Bonjour Vincent.
Bonjour Annelise.
Vincent, le sujet du jour est une fois de plus en lien avec l'autorité parentale. Nous allons aborder ensemble un concept qui touche moins de gens, mais qui est très important pour les futurs parents. Nous avons pour sujet du jour un lien de filiation assez particulier que l'on appelle la filiation par procréation assistée.
En effet, Annelise, comme nous allons le voir ensemble aujourd'hui, la filiation par procréation assistée peut sembler un peu plus complexe que la filiation par le sang ou par l'adoption qui ont fait l'objet de capsules par le passé.
Alors Vincent, on en parle déjà, mais peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette filiation?
Bien sûr, Annelise. D'abord, il faut savoir que la filiation par procréation assistée s'inscrit dans un courant assez moderne et qui permet par ailleurs de compléter certains aspects juridiques des progrès en ce qui concerne les avancées médicales. En effet, là, si autrefois il pouvait être moralement ou techniquement difficile de recourir aux gamètes d'un autre individu, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Et le législateur québécois a prévu le coup avec le concept justement de l'affiliation par procréation assistée. Néanmoins, il faut garder quand même à l'esprit que les droits et les obligations des parents à la suite de l'établissement d'un lien de filiation par procréation assistée seront les mêmes que pour l'affiliation par le sang. Alors, Annelise, pour résumer le plus simplement possible ce qu'est l'affiliation par procréation assistée, on peut dire qu'il s'agit du lien légal entre le parent et l'enfant qui entraîne tous les droits et les obligations qui sont prévus par l'autorité parentale lorsque l'enfant est conçu à l'aide des gamètes d'un autre individu. Ce qui est surtout important ici, c'est que nous devons nous trouver dans un cas de projet parental à proprement dit. Ainsi, l'individu en question est une personne autre que la femme qui porte l'enfant ou que son conjoint. Il faut effectivement souligner le fait qu'on se trouve dans une situation de procréation assistée seulement dans ces deux cas.
Vincent, que veux-tu dire quand tu fais mention qu'il n'est que possible dans ces deux cas uniquement?
C'est une bonne question, je vais développer un peu là-dessus. Il faut noter qu'au Québec, le recours à une mère porteuse n'aura pas pour effet d'établir un lien de filiation par procréation assistée dans le cas d'un couple homosexuel masculin. Le législateur québécois prévoit expressément la nullité absolue au chapitre de la filiation par procréation assistée à l'article 541. Par conséquent, il existe un certain risque pour le couple homosexuel masculin en droit civil québécois et ça, c'est un facteur qu'ils vont devoir tenir compte quand ils vont envisager cette solution. Le risque ici repose principalement sur le fait qu'il existe un lien de filiation par le sang entre la mère porteuse et l'enfant et qu'il ne sera pas possible pour le couple de forcer l'exécution du contrat.
Vincent, plus tôt, tu as évoqué un concept important en matière de procréation assistée, soit celui du projet parental. Pourrais-tu nous en glisser un mot à nos auditeurs?
Oui, Annelise, tu fais très bien de le souligner car, en effet, l'élément au cœur de la procréation assistée repose sur l'idée du projet parental. Celui-ci est désigné à l'article 538 du Code civil comme étant le projet entre une personne seule ou des conjoints d'avoir un enfant et de recourir aux forces génétiques d'une personne qui n'est pas partie au projet. Rappelons aussi, compte tenu des informations déjà mentionnées, que la personne seule ou la personne désignée parmi les conjoints est une femme. Et à titre d'illustration, Annelise, un cas typique de la procréation assistée pourrait comprendre un couple avec des problèmes de fertilité qui ont recours soit à un donneur ou une donneuse. Notons également le cas d'un couple homosexuel féminin qui souhaite avoir un enfant autrement que par l'adoption. Il y aurait dans ces cas une insémination artificielle chez la femme qui pourrait donner lieu à un lien de filiation par procréation assistée dès lors qu'il y a un projet parental. Il est à noter qu'il existe aussi, qu'il est possible de recourir à la méthode plus traditionnelle qui inclut les rapports sexuels. Or, dans ce cas, il va être important d'apporter une petite distinction avec les concepts qu'on a vus. Et cette distinction repose sur le fait que ce cas précis prévoit la possibilité pour le donneur d'établir quand même son lien de filiation avec l'enfant dans l'année qui suit la naissance. Donc, on parle ici d'un lien de filiation par le sang Il s'agit vraiment d'une petite exception au projet parental et au principe derrière les articles qui prévoient la procréation assistée.
Merci Vincent pour ce résumé complet du projet parental. Maintenant, une question me vient à l'esprit. Est-ce que la filiation pour le conjoint est la même avec l'enfant?
La filiation sera bel et bien la même, Annelise. Une fois que les critères entourant le projet parental sont remplis, la filiation aura des faits autant pour la femme qui a donné naissance que pour son conjoint ou sa conjointe. Par ailleurs, le législateur a prévu qu'il n'était pas possible de contester la filiation survenue à la suite d'un projet parental pour cette seule raison. Les mêmes droits et les mêmes obligations conférées en vertu de l'autorité parentale seront attribués au conjoint. Néanmoins, il sera possible de contester autrement la filiation par les moyens qui sont prévus à la filiation par le sang. Donc, on parle du chapitre de la filiation par le sang. Prévoyant le tout, le Code civil indique qu'en cas de couple homosexuel féminin, la conjointe qui n'a pas donné naissance à l'enfant sera considérée comme le père de l'enfant en ce qui a trait aux droits et aux obligations des parents.
En effet, le législateur a été proactif sur cette question. Vincent, on a parlé à quelques reprises du donneur. Pourrais-tu élaborer rapidement sur le sujet en nous indiquant quels sont les enjeux chez cette personne?
En effet, on en parle depuis le début et je vais apporter quelques précisions en ce qui concerne le donneur. Ainsi, mis à part ce qui a été déjà mentionné en ce qui concerne le droit de filiation en cas de relation sexuelle, il faut noter que les informations personnelles du donneur sont et demeureront confidentielles. La seule exception à ce principe de confidentialité comprend le cas des enjeux de santé dans lesquels il pourrait être possible d'obtenir l'information nécessaire avec, bien sûr, l'autorisation du tribunal. Il faut quand même mentionner que cette information sera transmise seulement aux professionnels de la santé qui en ont besoin dans leurs évaluations ou leurs diagnostics.
Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations qui mettent fin à notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec, plus précisément sur le lien de filiation par procréation assistée. Je suis persuadée que nos auditeurs ont apprécié le tout.
C'est toujours un plaisir pour moi.
Nous remercions une fois de plus la radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule d'information juridique sur le droit de la famille.